Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la proximité de la fête de l'exaltation de la croix m'oblige à laisser un peu de côté l'évangile du jour pour vous parler de cette fête très importante. Quelques mots d'abord sur l'institution de la fête elle-même. Saint Jean Chrysostome nous rapporte que Sainte Hélène, donc la mère de l'empereur Constantin, et souvent Hélène et Constantin sont ensemble sur les icônes, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vous pourrez le vérifier à Limours par exemple. Dans une citerne à Jérusalem, elle découvre un fragment de croix avec un écriteau qui laisse peu de doute sur la nature de la croix, puisqu'il y avait sur cet écriteau, en trois langues, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en latin, en grec et en hébreu. Donc là, il n'y a pas beaucoup de croix qui ressemblent à ça. Hein. Et donc, l'acronyme de ça, en latin, c'est INRI, et c'est ce qui est resté. En 614, les Perses prennent Jérusalem, brûlent le Saint-Sépulcre, emmènent la croix, et c'est l'empereur byzantin Héraclius qui va leur faire la guerre jusqu'en 630 pour la récupérer. Ensuite, il fera un triomphe militaire à Jérusalem en passant par la Via Dolorosa, donc le chemin que le Christ a emprunté pour son chemin de croix. Et il remet la croix dans le Saint-Sépulcre reconstruit. Ensuite, elle est perdue au XIIe siècle quand Saladin et ses troupes prennent Jérusalem. Alors après, il y a beaucoup de versions un peu divergentes, mais qui ne sont pas très sûres historiquement, donc je ne préfère pas vous les rapporter. Et nous avons, on peut dire qu'on a perdu la croix. Voilà. Alors, première chose, la proximité avec la fête de la Nativité. Hein, pourquoi l'Église a choisi de mettre l'exaltation de la Sainte Croix le 14 septembre? Pourquoi pas une autre date ou quelque chose qui serait plus dans la proximité avec le jour de Pâques, à la rigueur? Donc c'est une façon très belle et très subtile d'exalter la Mère de Dieu, puisque nous avons fêté sa naissance le 8 septembre, et entre le 8 et le 14, il y a 6 jours. Et donc 6 jours, c'est quoi? C'est le temps de création du monde, d'après l'Écriture. Et donc, entre elle qui lui donne la vie et nous qui lui donnons la mort, il y a un monde. Vous voyez? Donc, ça, c'est la raison. Ensuite, c'est l'exaltation de la croix. C'est pas une méditation sur la croix, c'est pas une commémoration de la croix, c'est une exaltation. Donc, c'est lié à une notion de triomphe. Alors, le triomphe chrétien est assez paradoxal, puisque c'est un instrument de torture. C'était la condamnation la plus ignominieuse qui puisse être à cette époque-là. Hein, c'était vraiment réservé aux déserteurs de l'armée, aux pires criminels. Donc, on fait un instrument de torture, celui qui est relatif à la pire des condamnations, une agonie, une souffrance et une mort. Et nous, on appelle ça un triomphe. Et pourquoi nous, on appelle ça un triomphe? Parce que le triomphe chrétien, il n'a rien à voir avec le triomphe du monde. Vous voyez? De la même façon, tout ce qui est conceptuellement chrétien n'a rien à voir, l'amour chrétien n'a rien à voir avec l'amour des romans de gare ou même de la littérature romantique. Vous voyez, c'est autre chose. Et ça nous invite à la déconstruction de toutes les images un peu jupitériennes qu'on peut avoir de la divinité. Hein, tout ce qui est puissance, gloire et ce genre de choses. Alors effectivement, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, on le dit à plusieurs reprises dans la liturgie, mais il est aussi un Dieu qui montre une certaine forme de faiblesse, qu'en théologie on appelle la kénose. Alors la kénose, hein, c'est vraiment, si on le traduit, c'est l'anéantissement. Dieu s'anéantit, il renonce complètement à sa puissance. Première phase de cet anéantissement, il crée le monde. Il accepte, il veut créer un monde qui va être autonome par rapport à lui. Et ce monde ne tient que par sa volonté. Et on a tous rencontré au moins une fois dans notre vie, ou peut-être même l'avons-nous dit dans le passé, on a rencontré des gens qui disent « Dieu n'existe pas ». Et au moment où la personne dit ça, Dieu lui prête vie. Vous voyez? Ça, c'est une première forme de kénose. Deuxième forme de kénose, il s'incarne. Donc, comme nous, il va avoir faim, il va avoir froid, il va avoir soif, il va être fatigué, il va avoir peur, il va souffrir. Et si vous poussez cette logique de kénose, d'anéantissement, jusqu'à son paroxysme, là, vous arrivez à la croix. La croix, c'est le moment où Dieu est dans le renoncement absolu de sa puissance. Et cette tentation, effectivement, de répondre à ceux qui lui disaient « Mais descends, montre-nous que tu es si fort que ça. » Non, être Dieu, c'est rester sur la croix. C'est l'anéantissement absolu de soi-même. Alors, l'apôtre Paul nous dit, dans sa première aux Corinthiens, le langage de la croix est folie. Hein, et le grec, c'est « o logos garotoustorou ». Donc, c'est le logos de la croix. Et alors, le logos, ça veut dire plein de choses. Ce n'est pas seulement le fils dans les choses trinitaires, c'est aussi l'essence des choses, le mode de fonctionnement. En fait, tout ce que la croix a à nous dire, on pourrait peut-être mieux le traduire comme ça, est folie pour ceux qui vont vers leur perte, dit l'apôtre, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile, alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc vous voyez, Paul, lui, il a vraiment compris cette chose qui avait échappé à certains Juifs et aux Grecs, cette kénose, un Dieu qui renonce à tout, qui est quelque part fou. Alors la question aujourd'hui, c'est comment j'actualise sa croix dans ma vie? Ça, la vraie question. Et comme on sait par Paul que la croix a un logos, elle a un mode de fonctionnement, la croix est éminemment liturgique. Alors on l'a vu ce matin, plus avant, entre la frontière entre l'orthros et la liturgie, on a fait quelque chose de liturgique par rapport à la croix. Mais la croix en elle-même est liturgique. Alors, la liturgie, un petit excursus pour bien me faire comprendre, souvent les gens croient que la liturgie est symbolique. Ils ont tout à fait raison, mais ils pensent que le symbole est ce que nous, aujourd'hui, on appelle analogie. C'est-à-dire que ça fait penser à quelque chose, ça nous rappelle quelque chose. Mais le symbole, ce n'est pas ça du tout. Le symbole, c'est quelque chose qui permet de passer d'une réalité à une autre véritable réalité. C'est-à-dire, par exemple, je prends la fête de la Théophanie, on ne se souvient pas que le Christ a été baptisé dans le Jourdain. On est avec le Christ dans le Jourdain et on participe à son baptême que Jean lui donne. Quand le Père Yves, dans quelques minutes, va invoquer l'Esprit Saint sur le calice pour en faire le sang du Christ, ça ne nous fait pas repenser à la scène. Nous serons avec le Christ et ses apôtres dans cette pièce haute de la maison de Jérusalem où il a fait sa Pâque. La liturgie, c'est ça. C'est un moyen symbolique de s'affranchir du temps et de l'espace pour revivre une situation déterminante pour notre salut. Donc ça, c'est la première chose à bien saisir. Ensuite, le Christ lui-même a intégré sa croix, la croix sur laquelle il est mort, dans sa propre liturgie pascale. Alors vous allez me dire, maintenant les deux événements sont séparés, ils sont assez proches dans le temps, mais ils sont séparés. Il a mangé sa Pâque avec les apôtres, comme les Juifs la mangeaient traditionnellement, et après, il est mort sur la croix. Grave erreur. La Pâque juive qu'il a mangée avec ses apôtres et que nous partageons avec lui tous les dimanches, c'est ce qu'on appelle le Seder Pascal. Seder, c'est le mot hébreu pour ordo en latin, c'est le déroulement de la liturgie. Le Seder Pascal, si je peux vous en donner vraiment le squelette le plus petit, c'est il y a quatre coupes de vin qui rythment quatre moments de ce qu'est la Pâque juive. Une bénédiction et ensuite celui qui dirige la Pâque boit une première coupe de vin. Donc là, on sait que la Pâque a démarré. Ensuite, il y a toute la proclamation de l'Écriture. Il boit une deuxième coupe de vin. Ensuite, c'est le repas. Ensuite, il boit une troisième coupe de vin qui s'appelle coupe de bénédiction. Retenez bien cette expression, elle est importante. Ensuite, ils disent des psaumes, ce qu'on appelle le Hallel chez les Juifs, donc les psaumes 113 à 118. Et ensuite, il boit une quatrième coupe de vin. Et là, le Seder Pascal est terminé. Alors, vous avez par exemple dans le repas, c'est beaucoup plus codifié que ça, hein, c'est juif, donc tout est très méticuleux. Vous avez un moment où on va tremper un morceau, alors je crois que c'est du pain, dans des herbes amères, pour non pas se souvenir de l'amertume de l'esclavage, mais pour revivre liturgiquement l'esclavage. Et saisir toute la grandeur de la libération qui est donnée. Donc par exemple, dans l'évangile de Jean, à la fameuse question « Mais qui va te trahir ?» Jésus, alors l'évangéliste nous dit, Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc là, ça fait référence à un moment précis où on doit tremper quelque chose dans les herbes amères. Et là, c'est le génie théologique de Jean de lier l'amertume de l'esclavage et l'amertume de la trahison de son apôtre. Vous voyez ? Après la troisième coupe, donc ce que je vous disais, il doit lire des psaumes. Je vais vous lire 5 versets des psaumes. Jésus a dit ça quelque temps avant d'être arrêté, jugé de façon inique, flagellé, crucifié, de mourir et de ressusciter. Écoutez bien ce que disent les psaumes. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. » Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Vous voyez la dimension excessivement prophétique du point de vue pascal de ces psaumes. Et donc voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je vais essayer de vous montrer que c'est la croix. Alors, c'est Luc qui, dans sa retranscription du Seder Pascal, est le plus précis au niveau des coupes. Luc 22, 14 à 20, il nous écrit « Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, ayant reçu une coupe, c'est la deuxième coupe, je vais vous montrer pourquoi. Il rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas. Donc celle-là, c'est la troisième. C'est pour ça que je vous disais, celle d'avant, c'est la deuxième. En disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Donc quand le Père Yves va invoquer l'Esprit Saint, il va nous renvoyer par le moyen symbolique de la liturgie au moment où Jésus était à la troisième coupe de sa liturgie. Ok ? Paul nous confirme ça. Dans sa première aux Corinthiens, il dit « la coupe de bénédiction que nous bénissons ». Ce n'est pas de la rhétorique, hein. Il est en train de nous dire « la troisième coupe du Seder Pascal que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ ?» Voyez ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que liturgiquement, il faut absolument que Jésus boive ses quatre coupes. Si jamais il ne boit pas sa quatrième coupe, il n'est pas le Messie, puisqu'il a fait une erreur, et là on peut tout arrêter et rentrer chez nous. Parce que tout ça, finalement, ce n'est que du théâtre. Il n'y a pas de sacrement, il n'y a rien. Dans le jardin à Gethsémani, il fait allusion à une coupe, mais il ne boit pas de vin. Il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ensuite, il est arrêté. Il ne boit pas de vin. C'est difficile dans ces conditions-là de boire du vin, de toute façon. Il passe devant le Sanhédrin, il ne boit pas de vin. Il passe devant Pilate, il ne boit pas de vin. Flagellé, vous imaginez bien qu'il ne boit pas de vin. Moqué par les soldats, il ne boit pas de vin. Son chemin de croix, il ne boit pas de vin. Et pourtant, les Juifs ont obligation de lui donner du vin à cause du proverbe 31.6. Procure des boissons fortes à qui va mourir, du vin à qui est rempli d'amertume. Mais Marc nous dit, au pied de la croix, il refuse le vin. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ne vous inquiétez pas, il a bu du vin. C'est Jean qui nous explique comment. Parce que tout le monde était parti, il n'y avait que Jean qui était au pied de la croix avec sa mère et d'autres femmes. Okay ? Donc, quand Jésus refuse le vin dans Marc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de dire « Je ne terminerai pas ma liturgie tant que je ne serai pas sur la croix. Regardez. Après cela, Jésus, qui savait que tout cela, que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie. Et l'Écriture, c'est, pour un juif, c'est beaucoup plus vaste que ce qui est écrit. C'est toute la tradition. Et donc celle qui dit, tu dois boire ta quatrième coupe de vin. Il dit, j'ai soif. Là, il dit, bon, ça y est, maintenant je vais la boire, cette coupe de vin. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Le vinaigre, c'est du vin aigre. Hein. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, hein, asperge-moi avec l'hysope et je serai pur, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vin aigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous voyez, donc il a poussé son corps jusqu'aux extrêmes limites pour intégrer la croix dans sa liturgie. Mais sa liturgie, à quoi elle renvoie? C'est un commandement de Dieu qui demande aux Juifs de revivre sans cesse la sortie d'Égypte. Par le même moyen que la liturgie, c'est pas, on ne se souvient pas. On sort d'Égypte quand on fait ça, vous voyez? Et la sortie d'Égypte, alors, c'est quoi? C'est le moment de la dixième plaie, quand Dieu dit aux Hébreux, je vais tuer les premiers-nés d'Égypte. Ceux qui veulent quitter leur servitude, vous allez égorger un petit bétail, vous allez prendre son sang, et avec une branche d'hysope, toujours, une branche d'hysope, vous allez enduire les linteaux et les manteaux de vos portes pour signifier que vous voulez venir avec moi. Soit vous restez dans la servitude en Égypte, et traditionnellement on sait que 80% du peuple est resté dans la servitude. Il n'y a que 20% qui est parti et qui a suivi Moïse. Et cette servitude, c'était quoi d'ailleurs? Ils faisaient des pyramides, hein. Ils étaient dans un esclavage, on va dire, politique et économique. Ils faisaient des pyramides. Alors les pyramides, ok, c'est des chefs-d'œuvre architecturaux, tout ce que vous voulez, mais c'est quoi? C'est des tombeaux. Donc leur servitude, elle est au service de la mort. Et Dieu leur dit, moi je vous prends de cette servitude et je vous mets à mon service, à moi. Mais vous devez enduire vos portes avec le sang d'un petit bétail. Et alors il n'a pas dit de le faire avec un pinceau de peintre en bâtiment qui permet d'être super précis, vous voyez? Alors imaginez, ils prennent une branche d'hysope et ils font comme ça, hein, sur la verticale, et comme ça sur l'horizontale. Donc qu'est-ce qu'on a sur les portes? Des croix. Bien évidemment, on a des croix. La croix n'est pas marquée, mais si vous revivez la scène au point de vue de la liturgie, les premiers dans toute l'histoire du salut qui ont dit « on te suit, on quitte la mort, on choisit la vie », leur signe distinctif c'était quoi? Des croix. C'était le signe distinctif de ceux qu'on choisit entre la vie et la mort. Et maintenant, vous allez saisir, j'espère, qu'est-ce que c'est que cette croix dans ma vie, dans votre vie? Parce qu'une fois que Dieu les a pris à son service, ce n'était pas terminé. Il leur a dit « je vais vous donner une loi ». Vous voulez être dans la proximité avec moi, je vais vous donner une loi. Parce que votre morale et votre discernement propre n'est pas suffisant pour gérer la problématique de la proximité avec moi. Il y a évidemment ceux qui ont une vie immorale s'éloignent de Dieu. Mais avoir une vie morale, ce n'est pas suffisant. Hein, les communistes en Roumanie, quand ils étaient au pouvoir, ils avaient réduit la théologie à l'enseignement de la morale. Ça vous montre bien que le christianisme, c'est bien au-delà d'une problématique morale. Et cette loi, dans toute l'évolution historique de l'Église, c'est quoi? C'est le droit canon. Si vous voulez être dans la proximité avec Dieu, il faut connaître les canons. Donc je suis très content, il y a plusieurs personnes parmi nous qui se sont inscrits à des cours de théologie où ils pourront découvrir cette discipline-là. Le droit canon, c'est ce qui va vous donner la proximité, enfin tout l'enseignement de tout le tréfonds de l'Église qui vous dit, vous voulez gérer une proximité avec Dieu, ne faites pas ça. Tu veux te rapprocher de Dieu? Fais ça, fais ça, fais ça. Parce que la morale, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Même déjà, la loi mosaïque, déjà, c'est pas suffisant, vous imaginez bien. Et ces canons de l'Église, en plus, demandent du discernement. Parce qu'il y en a certains qui sont transitoires par rapport à une situation historique, et d'autres, par contre, qui sont, on va dire, pour toujours. Et c'est là qu'il faut avoir un peu de finesse et de subtilité. Je vais vous donner deux exemples très rapidement avant de revenir vraiment sur la croix, de comment les canons de l'Église peuvent parfois heurter les idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie chrétienne. Il y a peut-être des gens parmi vous, ou que vous connaissez, qui vont à l'Église pour se sentir bien. Pour se... un truc un peu yoga, new age, si vous voulez. Alors, si vous contemplez le Christ en croix, vous allez rapidement comprendre que la problématique de la proximité avec Dieu n'est pas toujours excessivement confortable. On ne peut pas utiliser la Sainte Trinité, la Mère de Dieu, les saints, les pères, les ascètes, les martyrs, pour en faire une petite pilule et être heureux avec ça. Ça, c'est juste pas sérieux. On vient à l'Église pour expérimenter l'amour chrétien et pour faire naître son être ecclésial. Si, par un effet collatéral, on se sent bien, tant mieux. Moi, je me sens toujours très bien à l'issue d'une liturgie. J'espère que c'est pareil pour vous. On sort avec joie et sourire, mais la problématique de la proximité avec Dieu n'est pas une problématique de confort, c'est une problématique de vérité. On n'est pas orthodoxe parce que c'est cool, parce que le chant byzantin est plus joli. On est orthodoxe parce que c'est vrai. Deuxième chose, on a tous des parents. Alors bon, pour les plus jeunes, c'est pas vrai, mais on a tous un conjoint. Et après, au bout d'un moment, on a des enfants. Et par rapport à ces trois types de relations-là, on ne sait pas trop, parce que gérer de façon égale les trois, ça se termine toujours mal de toute façon. Et donc l'Église nous donne l'enseignement vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui pourront, mais qui vont toujours essayer de faire ça par rapport à leur propre morale. Donc, il faut suivre l'enseignement de l'Église qui peut parfois rompre, j'irais frontalement avec ce que vous pensez. L'Église, la Bible, la tradition, les pères, unanimement nous disent, c'est le conjoint qui prime. Si jamais la vie vous met dans une situation où vous devez choisir par rapport à vos parents, vos enfants, c'est le conjoint qui prime. Le Christ dans Luc dit « Je suis venu pour séparer le père et le fils, la mère et la fille, etc. » Et le seul lien qu'il ne sépare pas, qu'il ne veut pas abîmer, c'est le lien matrimonial. Il est prioritaire sur tous les autres. Sur tous les autres. Hein, Dieu dans la Genèse dit « Tu quitteras ton père et ta mère, c'est une grande violence. Hein. Tu quitteras ton père et ta mère, tu te marieras avec ta femme et vous serez tous les deux une seule chair. » Je reviens sur la croix. Le péché n'est pas une problématique morale, c'est une problématique d'éloignement vis-à-vis de Dieu. Okay ? Mais alors l'éloignement avec Dieu, imaginez, c'est comme un fil, mais il ne peut jamais se rompre. C'est-à-dire qu'on peut s'éloigner à l'infini, mais ça ne se casse jamais. C'est-à-dire qu'on peut toujours revenir. Et le fait qu'on puisse toujours revenir, ça nous est enseigné par le fait que la croix soit en bois. Alors ça va vous paraître un petit peu peut-être déconnecté, mais il y a les deux façons les plus grandes d'être dans l'éloignement vis-à-vis de Dieu, c'est d'être mort ou d'être maudit. Le Christ a connu les deux. Il est mort sur la croix. Et le fait d'être pendu au bois, dit le Deutéronome, vous met dans un état de malédiction. Donc le Christ est mort en état de malédiction et Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire que quel que soit votre éloignement, quelles que soient vos fautes, Dieu s'en fiche. Si vous voulez revenir, vous revenez. La parabole du fils prodigue, elle est, je dirais, éclairante là-dessus. Mais vous prenez par exemple le roi David, le prophète et roi David. Il a convoité la femme, 10e commandement. Ensuite, il l'a volée à son mari, 8e commandement. Il a fait l'adultère, 7e commandement. Il a eu un enfant, il a menti pour faire croire que c'était l'enfant du mari, 9e commandement. Il voyait que ça ne marchait pas, il a tué le mari, 6e commandement. Donc là, le prophète a dit, bon, on va recadrer 2-3 choses. Le roi David s'est repenti et c'est le roi David. Vous voyez, il n'est pas vu comme quelqu'un de spécialement... et il a laissé le psaume du repentir. Le psaume 50, le fameux psaume 50, c'est ça. Vous avez Paul. On aime tous Paul. Mais souvenez-vous qu'il a été persécuteur de chrétiens. Donc il n'est pas venu les voir dans leurs églises pour faire des débats rabbiniques compliqués. Non, il a arrêté des gens, il a tué des gens, il a fait des veuves, il a fait des orphelins, Paul. C'est de la persécution sérieuse, vous voyez. C'est un meurtrier. C'est le plus grand de tous les apôtres. Ça n'a pas empêché le Christ de le saisir. Il a dit, tiens, ce persécuteur-là, ce terrible, c'était quelque part un peu de la police politique, vous voyez, ce terrible pharisien, je vais en faire mon plus grand apôtre. Aussi loin vous pouvez être dans l'élastique qui vous relie à Dieu, c'est un élastique, ça peut revenir si vous voulez. Et ensuite, vous avez la forme même de la croix qui, en elle-même, est porteuse de sens. Imaginons que les Romains étaient un peu plus indulgents avec le Christ, ils l'auraient décapité. Donc mettons, ils le décapitent avec une hache. Aujourd'hui, je serai en train de vous parler de l'exaltation de la Sainte Hache et de tout ce que cette hache a fait de bien dans notre vie. Vous voyez bien que il y a un truc qui ne marche pas, ça ne le fait pas, vous voyez. On sent que c'est lié aux lignes. Donc la croix, c'est deux lignes. La ligne, c'est quoi? C'est l'éloignement entre un point A et un point B. C'est un outil liturgique et symbolique d'éloignement entre nous et Dieu. C'est cette problématique-là qu'on doit régler. Et vous avez des éloignements qui sont plus ou moins grands, qui sont donnés par le récit de la création. Alors, le premier jour, c'est l'éloignement d'Abraham, et c'est très long, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le deuxième, c'est l'éloignement de Noé. Voilà. Troisième jour, c'est l'apparition de la vie. Il y a plein de civilisations, plutôt les animistes, pour eux, toute cette vie magnifique, c'est ça Dieu. Ils sont un peu panthéistes, vous voyez. Ça, c'est un éloignement de trois jours. Plus grand que celui d'Abraham ou plus grand que celui de Noé. Quatrième jour, ceux qui ont adoré le soleil, la lune, les étoiles. Ça, on s'éloigne de quatre jours. Cinq jours, c'est les animaux. Alors même si les animaux qui ont souvent été divinisés sont plutôt venus le sixième jour, c'est le cinquième jour, le jour de la création des animaux, vous voyez. Donc là, on s'éloigne. Alors le sixième jour, c'est notre monde à nous. C'est le monde qui dit que la mesure de toute chose, c'est l'homme. C'est plus le Dieu homme, c'est l'homme Dieu. Et c'est normal que ce soit cette civilisation-là qui ait dit « Dieu est mort ». Donc ça, c'est un éloignement de civilisation. Nous, on vit dans le monde le plus éloigné possible de Dieu. J'espère que ça nous vaudra plein de mérites après. Et au septième jour, qu'est-ce qui se passe? Shabbat, jour saint, jour béni. Shabbat, c'est le substantif d'un verbe qui veut dire « revenir ». Donc là, en fait, on s'est éloigné pendant six jours et au septième, on revient à Dieu. Et vous serez d'accord avec moi que si la ligne est la forme géométrique de l'éloignement, la forme géométrique du retour, ce sera le cercle. Et là, vous avez la clé de compréhension de ce qui n'est pas un artifice hollywoodien pour donner un peu d'importance au récit, l'éclipse de lune. Au moment où le Christ meurt sur deux lignes, les lignes de notre éloignement, la lune passe devant le soleil, retour à Dieu. Donc cette croix, sa croix, c'est tout ce à quoi je dois mourir pour me rapprocher de lui. Au début, je suis un individu. Donc l'individu, c'est celui qui dit « moi, 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 moi ». Mais ce que l'Église, elle veut, c'est faire accoucher en nous la personne, au sens théologique. La personne, c'est celui qui est dans la relation avec Dieu, avec le monde, avec lui-même et avec les autres. Et la croix, c'est notre burin. Imaginez, l'individu, c'est un gros bloc de pierre. Et bien, la croix, c'est le burin de tout ce qu'on va enlever pour faire émerger la personne. Vous voyez, la croix, on va dire, c'est tout le chemin qui sépare l'individu de la personne. Sa croix dans ma vie à moi. Et si je deviens une personne, alors je suis en relation avec le Christ. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.